le fait que Bruce Willis est mort?
Non. On en parlera tantôt.
Quand
surtout
on sera plus
si
live.
On est live. Ouais, quand on sera plus live.
Oh, oh ouais, non, mais là, c'est le faux mot. Là. On veut que les gens voient ça, là, puis ils soient hype pour l'épisode, là. Ok, alors c'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 13, épisode 11, le FOMO, le hype, la peur de manquer quelque chose, n'ayez crainte, cet épisode ne sera jamais rediffusé nulle part, alors vous êtes exclusif au maximum. Je suis Simon, et comme à l'habitude, je suis en compagnie des deux plus grandes gueules du paysage ludique québécois. S'ils sont à notre micro, vous comprendrez que c'est parce qu'ils ne peuvent pas être ailleurs. J'ai nommé Antoine et Vincent, bonsoir messieurs.
Bonsoir. Yes. Je suis attaché après ma chaise, c'est sûr que je peux pas aller ailleurs, mais là tu dis que je suis une plus grande gueule que Sylvain Lacroix.
C'est pour ça qu'on peut pas rediffuser cet épisode. Sérieusement, à chaque fois, on marche sur des œufs. À chaque fois, j'ai la chienne de savoir qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais ce soir, on est là pour parler du hype. Je vous lance ça avec juste une petite histoire, ok? Le hype dans les jeux de société, qui y aurait cru? Hein? C'est ça la question. Maintenant, c'est rendu, on le sait, les Kickstarter à 3 000 $, les gens qui capotent comme des fous, qui se battent dans des magasins pour acheter des copies exclusives. Il y a de cela plus de 10 ans, je dirais presque 15 maintenant, on était en 2010, 2011 peut-être, à la récréation, hein, pour ceux qui se rappellent, avec la baronne Nina qui a façonné le paysage ludique québécois. Je vais là pour la première fois, la deuxième fois peut-être, et je m'assois avec un gars que je connais pas pantoute pour réaliser 5 ans plus tard que c'était Olivier Lamontagne, ok? Donc, peu importe, mais c'était quand même bon. On jouait à Dungeon Twister, finalement, Joël Durandolphe arrive avec une boîte beige avec des petits carrés dessus, une boîte assez laide, on va se le dire, et c'est écrit sur la boîte « Innovation », ok?
Tu peux pas encore nous parler d'innovation.
Non, je vais faire ce cours. Je vais faire ce cours sur innovation. Mais innovation, vous savez à quel point ça me tient à cœur. C'est un jeu à quel je joue encore chaque semaine depuis cette époque. Mais Joël nous présente ça. Il dit, hey, ça vient de sortir. Non, non. Et là, Olivier Lamontagne dit, que je sais pas que c'est Olivier Lamontagne, c'est pas important, mais il dit, ah oui, j'ai vu le preview de ce jeu-là sur YouTube. Et là, moi, dans ma tête, je me dis, Chris, le gars, il a vu un preview de jeu de société sur YouTube, le pire geek de tous les temps. C'est ça que je me dis dans ma tête à ce moment-là, pour finalement réaliser que, bon, 15 ans plus tard, on est exactement où il fallait pas qu'on soit par rapport aux jeux de société. Les jeux de société sont à la même place que le cinéma hollywoodien, la musique pop et toute la société de consumérisme extrême. Nous y sommes, le FOMO, le hype, la peur de ne rien rater. Alors, c'était l'introduction.
Je veux juste préciser, en fait, la définition de hype en français et en anglais, c'est deux choses complètement différentes. En français, en fait, c'est la hype et ça veut dire, en fait, la dernière tendance, la dernière mode. Donc ça, c'est la définition française du mot. Nous autres, c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler de la définition anglaise du hype, c'est-à-dire tout ce qui est publicité, marketing pour mousser la popularité de quelque chose avant sa sortie.
On se lancera pas dans un
des vraies informations ou des fausses informations.
Sémantique.
Non, mais ouais, sémantique, mais c'est exactement français, la même chose, les deux. Au final, là, ils se recoupent à la même place. Là,
Non, parce que la définition anglaise a vraiment est axée sur le fait que c'est du gros marketing à fond. Tandis que l'autre, c'est une tendance, une mode.
Mettons l'exemple.
Il n'a pas nécessairement besoin de marketing, en fait.
Mettons l'exemple, là, c'est que la hype du moment dans les jeux, c'est le tableau building versus un jeu qui reçoit beaucoup de hype. C'est dans le fond le côté marketing, vente sur Internet, la promotion qu'on en fait là, sur les différentes plateformes, réseaux sociaux et tout ça.
Mais que les gens soient excités par quelque chose, puis publient des photos, puis ça comme j'adorais ce jeu, puis là, quelqu'un est comme hey, j'ai reçu ma copie de tel jeu, puis là, tout le monde est excité. C'est du hype, mais c'est aussi une mode et une tendance qui est réelle auprès des joueurs et des joueuses. Là.
Non, ben c'est parce que la hype en tant que puis encore une fois, là, on veut pas se perdre, mais tu sais, la hype, c'est vraiment plus genre la mode en tant que telle dans le hobby. Pas dans le fond ce que les gens font. Tu sais, là, ce que tu parles là, c'est vraiment la mode, la tendance qu'on a à utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir, s'auto-promouvoir ou dire voici qu'est-ce que j'ai joué. Mais tu sais, si on parle de la hype dans le jeu de société présentement, c'est qu'est-ce qu'il y a la cote, qu'est-ce qu'il y a la tendance. Fait qu'on peut, je répète avec les tableaux building, engine building, ce sont des jeux qui ont la cote. Donc, ce sont des jeux qui sont grandement appréciés, qui sont généralement qui font fleurir le monde du jeu de société puis les ventes. Fait que voilà. Je sais pas si la
distinction micro il sonne bien. Ton micro il sonne bien, Vincent. Je suis content que tu aies investi dans un micro. Bravo. C'est merci. Très cool. Ça rend ton propos beaucoup plus éloquent. Ouais, je pense que là, on s'embarquera pas justement dans le débat sémantique extrême. On va se lancer. Messieurs, je vous laisse la parole, je vous laisse commencer. Je vais jouer le rôle plus d'animateur. J'ai quelques petites anecdotes et points que j'aimerais amener au fil du temps, mais je vais surtout vous laisser interagir là, pour commencer.
On va parler aussi du FOMO, pas juste le hype. Donc, le FOMO, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fear of missing out. Donc, c'est la peur de manquer une opportunité. Quelque chose, ouais. Donc, disons, la peur qu'un jeu devienne discontinué ou qu'on ne puisse plus le retrouver ailleurs ou que les promos ou tous les trucs dedans, qu'on ne puisse pas les revoir jamais.
À opposer au JOMO, hein? Pour ceux, Joy of Missing Out, qui est comme l'espèce de mouvement contestataire du FOMO, là, t'sais, de Joy of Missing Out.
C'est comme le côté hipster. Ça,
le hipster, fait. Ouais, c'est ça.
Puis en continuant avec le FOMO n'est pas nécessairement quelque chose qui est uniquement relié avec ce qui est tendance, avec la nouveauté. Mm-hmm. C'est aussi souvent dans une optique où est-ce que des jeux plus rétro, plus difficiles d'accès, vont en fait, on va voir une copie en vente, par exemple, là, se dire, est-ce que je vais avoir la chance de revoir ce jeu-là encore en vente? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour arriver à ça? Et c'est beaucoup, beaucoup axé sur le désir d'une expérience et non pas sur le désir de vouloir expérimenter quelque chose, non pas sur l'expérimentation qu'on a vécue et qu'on veut aller acheter. C'est beaucoup basé sur le « buy before try », le faux mot.
Oui.
C'est comme se marier avant d'avoir baisé, ça.
Dans le jeu de société, on voit ça beaucoup, en fait, le « buy before try », le nombre de fois qu'on voit sur, mettons, le jeu de société Québec ou Meeple Québec, des gens poster « Ah, je viens d'acheter ce jeu-là, est-ce que c'est bon? » Je veux pas être judgmental du tout, là, mais si tu poses la question après l'avoir acheté, qui est peut-être un peu tard.
Mais c'est comme les piles de la honte. Ben. C'est pratiquement une blague. Là, les gens partagent leurs piles de honte. On voit d'ailleurs celle d'Antoine derrière qui est rendue presque aussi grande qu'un petit enfant. Donc, c'est la pile. C'est comme connu, la pile de la honte. Puis t'as ça. T'sais, avant, t'achètes un jeu. La première chose que tu fais, c'est que tu le jouais. T'sais.
Ouais,
c'est comme, là, tu t'assurais, t'harcelais tes amis, les gars, je viens d'acheter tel jeu, venez-en chez nous, ok, on se fait une game. Là, maintenant, c'est comme, t'achètes tes jeux, puis t'espères que dans les 10 prochaines années, tu vas peut-être l'avoir joué une fois, tu sais.
Mais Vincent, il a amené un point intéressant, par exemple, parce que on parle souvent, en fait, du FOMO dans les nouveautés, dans les Kickstarter, parce que, en plus de ça, Kickstarter, souvent, va avoir des petites exclusivités, des petits goodies, là, qui vont être pas disponibles nulle part ailleurs après. Mais dans les vieux jeux, c'est aussi quelque chose qui existe. Dans le sens qu'on voit passer des fois sur Marketplace ou dans un peu importe où, un jeu qui date de 25 ans, puis ça, c'est une rareté, puis on se dit « Ah, je ne le retrouverai jamais, ce jeu-là. Ah, mais il est 100$. Ah ouais, mais je ne le retrouverai jamais, ce jeu. » Fait qu'en fait, tu vas sauter dessus comme Vincent saute sur... la misère sur le pauvre monde, comme disait
mon père. Je vais donner un exemple super simple. Un jeu qui se nomme Cave Evil. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce jeu-là. Non, Cave Evil, c'est un jeu... imaginez la version un peu genre death metal / nécromancien de Cosmic Encounter. Fait que je vais vous envoyer le petit lien dans le chat. Mais Cave Evil, c'est un jeu qui, les copies se vendaient, là, c'était des 200-250$, puis tout ça. Et ben finalement, moi, j'ai vu une copie sur le Geek Market, sur BGG, puis j'ai eu la copie pour environ 200$ avec shipping, plus une extension, j'étais bien content. Mais savez-vous quoi? J'ai fait ça il y a peut-être 2 ans. Cette année, ils ont refait un nouveau print du jeu.
Fatal.
Et voilà. Puis, tu vas jouer encore, je te gâche?
Non, j'y ai joué. Je trouve ça super bon. Oh, mais c'est ça. Un autre exemple, UR 1830, ici, qui est un jeu que, justement, c'est un vieux jeu de la compagnie Splatterspellen. D'ailleurs, Splatterspellen sont excellents, ça, pour faire ce genre de situation-là, de FOMO. Beaucoup de leurs jeux tombent souvent, en fait, discontinués. On peut parler de Food Chain Magnate, oui, mais je pourrais parler aussi de Antiquity, on pourrait parler d'Indonesia, on pourrait parler de Roads and Boats, probablement Simon.
Roads and Boats, ça c'est un des... Mais Boss, pendant longtemps, a été discontinué, non?
Est-ce que Capstone Games leur prend?
Exactement. Mais ce qui se passe, c'est que là, actuellement, pour reprendre l'exemple de UR 1830 BC, c'est pas une blague, si vous regardez l'historique des prix sur Internet, les copies pouvaient se vendre entre 120€ et ça allait jusqu'à à peu près 250$ américains. Donc, ce sont des copies qui se vendaient très, très cher. Je vous dirai pas combien j'ai payé la mienne.
Allez. Mais...
Non. mais tout ça pour
On
dire
On va demander
que...
à son petit, il sait, lui.
Mais tout ça pour dire que 3 mois plus tard, ben parce que c'est un jeu 18XX, All the Board Games a annoncé qu'il allait avoir une réédition avec du meilleur matériel. Et on s'entend que Splatterspellen à cette époque-là, là, c'est un jeu de 2006, 2001 même. C'était dégueulasse. Là. C'est comme, je pourrais vous montrer le matériel. J'ai honte
du
matériel.
C'est du Splatter, donc c'est ça.
C'est ça, exactement. Fait que juste le cover est horrible. On dirait que c'est un enfant de... C'est ça, on dirait qu'ils
pire
sont...
que celui de Cannes.
Ah, pire que celui de Cannes. Va voir. On dirait qu'ils ont donné un concours à des enfants là, de 3e année du primaire pour dire « On va faire un jeu de train, mais dans la Mésopotamie. Fait que les enfants, dessinez-moi le meilleur truc possible. » Puis c'est Théodore von Klischmarnitzer qui a gagné parce qu'il vient d'un autre pays. Là. Fait qu'il a gagné le prix. C'est le Netherlands.
Ah, c'est un pays connu.
Hein. Oui, c'est ça.
Mais... Ben, le look et les couleurs, ça ressemble un peu au premier.
Au premier boss. Oui, c'est ça, exactement.
Il avait l'air dessiné par l'enfant de l'auteur, en fait.
Oui. Donc voilà, donc oui, tout à fait, là, le FOMO, c'est vraiment.
Ben, peut-être juste parce que là, on est dans ces exemples-là, mais un des exemples pour moi les plus marquants à jamais, c'est Looping Louis. Looping Louis se vendait, tu sais, on regarde mettons sur BGG, il y a des copies à 80$ US qui se sont vendues, mais tu sais, j'ai entendu des prix plus hauts que ça pour certaines copies de Looping Louis, et quelques mois plus tard, Zellers faisait faillite au Québec, et moi j'ai payé ma copie 5$ en fait dans un Zellers en faillite là, alors que des gens l'avaient payé 125$ un an avant là.
Moi j'ai acheté Looping Chewy qui est exactement la même
chose. Non, 3 joueurs c'est gâché.
Non, 3 joueurs, en fait, c'est excellent. Ça te prendrait les 2, techniquement. Parce que l'autre à 3, il n'est pas bon.
Ouais.
Mais je pense que par rapport au FOMO, justement, on pourrait parler peut-être de la fameuse Vassal Law, qui est comme l'hypothèse de Vassal.
Je voulais parler, effectivement.
Vas-y, Antoine.
Tom Vassal, reste que c'est pas un dieu, mais cette phrase-là mais est presque. Vraiment un demi-dieu. Non,
il est grand.
Non, c'est ça. Okay, mais en fait, cette phrase-là qu'il ressort souvent, c'est si un jeu est si bon que ça, il va avoir un reprint. Donc, c'est carrément
son
motto, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il se dit, moi, je courrais pas après des jeux à 500$. De toute façon, leur ludothèque est vraiment immense. Ils n'ont pas de besoin. Mm-hmm. Mais cette phrase-là, effectivement, elle s'avère vraie dans 90% des cas. Il y a des cas spécifiques. Je prends par exemple Queen's Gambit, donc qui en fait ne sera jamais reprinté parce que je la compagnie veux. N'a plus...
Je le veux, absolument!
La compagnie n'a plus les droits, en fait, puis c'est sûr que ça sera pas.
Je rêve souvent que je vois dans une vente de garage, là, puis il y a genre une mère qui vend les shit de son fils qui a déménagé, là, puis genre Queen's Gambit. Oui,
Risk Star Wars,
elle vend à 12,95, puis je le prends pour 10$, puis là, comme oui, puis là, je m'en vais en criant, genre.
Mais écoute, mais Risk Star Wars est proche. Si
ouais, ouais, Risk Star Wars, c'est correct. Mon frère, d'ailleurs, a pogné un deal sur Risk Star Wars. J'étais bien triste. En fait, c'est ma tante qui l'a donné. Fait que, en tout cas, mais...
Moi, j'ai reçu copie à 20$. Moi,
sinon, dans le même style aussi, là, on parle de Magic Realm, que ça, malheureusement, il n'y aura jamais les droits qui vont être acquis. Donc, ça reste encore une espèce de d'antiquité. Là,
mais la demande n'est pas là pour ce jeu-là.
Ah, ça, je serais pas prêt à dire
c'est
ça.
C'est un jeu extrêmement niché à la base, oui. Donc tu ne le reverras pas. Mais as-tu des trucs pour nous autres, Vincent, pour éviter le faux mot?
Tu demandes ça à Vincent?
Des trucs où t'es encore en problème?
Tu demandes ça à Vincent, le gars qui envoie Pierre faire ses commissions genre pour acheter des jeux? Ah, c'est pour ça que Pierre n'est pas là ce soir, d'ailleurs, pour d'ailleurs, aller acheter des jeux à Vincent.
Juste faites des enfants. Vous auriez pu ben mettre temps. Non, mais blague à part, je pense que tout d'abord, c'est la véritable clé dans n'importe quoi, qu'on parle du FOMO, même du hype, c'est l'information. Informez-vous, soyez en connaissance de cause. Cherchez le designer, essayez de creuser. Collez-vous à quelqu'un qui connaît ces jeux-là. Moi, je veux dire, mon espèce de radar, mon garde-fou, c'est souvent Pierre. Pierre, on en rit beaucoup. Mais souvent, quand moi, je vois des jeux intéressants, que je me dis « Ah, peut-être ça pourrait être interpellant », je demande à Pierre. Et même que je suis rendu à un point où est-ce que je me dis « OK, il y en a trop qui m'interpellent, c'est quel jeu que Pierre ne possède pas pour que moi, je puisse aller le récupérer ?» Donc, c'est vraiment d'aller aussi chercher cette collectivité-là au niveau de la collection plutôt que d'acquérir pour son propre ego, pour sa propre personne. Et finalement, un autre point qui est quand même important à considérer là-dedans, c'est de toujours se demander au final, t'en as-tu vraiment besoin? T'sais, est-ce que vraiment...
Puis arrive McSween?
Ouais, c'est ça. Est-ce mais c'est pas une super bonne
question.
Does it
bring you joy?
Ouais, c'est ça.
Puis arrive McSween, Marie Kondo...
Ouais, c'est ça. Mais surtout aussi, c'est ça, est-ce que tu vas... Tu sais, est-ce que... Il y a plusieurs questions, tu sais, le temps qu'on va y accorder, l'investissement qui est requis pour ce genre de jeu-là, puis surtout de se demander, tu sais, encore une fois, est-ce que ce jeu-là, en tant que tel, tu sais, peut-être tu vas pouvoir le trouver plus tard ou à un autre moment, donc de ne pas te laisser prendre ou laisser avoir par... Le buzz du moment de se dire OK, j'ai une copie potentielle que je pourrais aller récupérer. Parce qu'autrement, bon, ben, tu sais, c'est comme on peut tomber rapidement dans le genre d'achat compulsif, qui est une forme de dépendance, qui est une forme de trouble de pulsion de contrôle, là, selon le DSM. Là. Donc, faut faire attention à ça, les amis. Il y avait un autre truc, je vais m'en rappeler tantôt. Je vais
Antoine, toi, t'as-tu des petits trucs pour nous?
Le faux mot, ben, j'aime bien le truc, en fait, à Vincent, de regarder qu'est-ce que nos amis ont dans leur ludothèque, finalement. Juste échanger des jeux entre les personnes, déjà, c'est une chose vraiment intéressante. Mais sinon, l'affaire, c'est que le faux mot, surtout aujourd'hui, les compagnies ne font à peu près pas de jeux qui vont être discontinués. Ou sinon, les gens passent tellement rapidement à d'autres jeux que même si tu ne l'achètes pas neuf maintenant, tu vas être capable de l'acheter usagé dans quelques mois, en fait. Donc, même quand tu sors, ça ne sert pas à grand-chose de l'acheter là. Si tu es capable d'attendre et que tu as une pile de la honte comme la mienne en arrière, ben joue donc à ceux-là à la place.
Qu'est-ce que Reworld, 5$, tu n'as même pas joué encore?
Non.
Puis en fait, excuse, je veux juste comme enchaîner ce que tu dis. L'avantage aussi d'attendre qu'il soit sur l'usager, ça fait en sorte que tu vois le jeu en fait baisser. Puis là, on est capable d'avoir une vraie perspective sur est-ce que le jeu il est bon. On va avoir plus de vidéos, on va avoir plus d'informations, on va avoir plus de gens autour de nous pour qui auront joué. Et donc, on va être vraiment en connaissance de cause.
Ouais, mais là, on revient en fait au hype.
Hey, j'ai un point peut-être vite là-dessus. Thomas de Coninck, philosophe québécois, d'ailleurs c'est Le Petit Prince ou peu importe quoi, là, on n'ira pas là, mais que j'aime beaucoup, parlait des classiques. Okay? Les classiques au sens large du terme. Et les classiques, c'est ce qui passe l'épreuve du temps. La nouveauté, on peut pas savoir d'emblée qu'est-ce qui va passer l'épreuve du temps. Oui, c'est le fun d'être alerte, attentif, de découvrir un peu les nouveautés. Mais en réalité, le bassin de classiques est déjà assez grand pour que tu n'aies pas nécessairement besoin d'acheter la nouveauté qui sort là. L'épreuve du temps va t'indiquer si tu dois le posséder ou non.
Que tu dois posséder rien du tout, en fait.
Que tu dois le posséder, oui ou non.
Tu n'as jamais besoin d'un jeu de société. C'est un besoin artificiel, ce n'est pas un.
Oui, mais comme la plupart des choses de consommation, là, on est quand même dans un podcast de jeux. Exactement. Les gens, ils aiment ça, posséder des jeux, c'est correct. Là. Les gens ont le droit de vouloir collectionner des jeux sans se faire shamer. Oui. Mais...
En fait, la collection, c'est un autre point intéressant parce que tu peux acheter pour jouer ou tu peux acheter pour collectionner. Ce n'est pas le même achat. Donc, si tu l'achètes pour collectionner, puis tu veux absolument tous les petits trucs, dont les promos et tout ça, je peux comprendre le fear of missing out. Mais si tu es pour le jouer, il n'y a pas d'intérêt, en fait, de l'acheter au départ. Tu peux attendre un peu plus tard. Surtout que tu vas pouvoir le jouer des fois dans les événements ludiques, en fait. Tu vas pouvoir le jouer chez un ami. Tu vas pouvoir l'emprunter même dans des ludothèques parfois. Donc, c'est ça. Mais tu sais, ça nous amène au hype que vous parliez. Donc, le hype, le fameux hype qui est créé, entre autres, par les Kickstarter. Là, je sais que je tombe dans Tal à Vincent parce qu'il aime ça chialer contre les Kickstarter.
Mais... Non, hey. En tout cas...
Non, puis quand tu vas dans une convention, tu vois les méga booths de compagnie avec de la publicité monstre. Le hype, il est où il y a de l'argent. Hein? Fait que...
Il est partout. Mais dans les conventions, tu le vois moins, parce que dans les conventions, en fait, normalement, tu as les jeux qui sont déjà sortis. Le hype, pour moi, se passe avant la sortie officielle du jeu. Donc, souvent, ça va être dans la campagne médiatique. Donc, ça va être souvent dans les Kickstarter, parce que c'est une campagne médiatique, un Kickstarter, et non pas seulement une campagne de sociofinancement. C'est quelque chose que les éditeurs vont utiliser, en fait, pour faire le marketing principal. Donc oui, ça fait des ventes, ça fait des préventes, mais ça fait surtout du marketing, puis ça fait du bouche-à-oreille énorme. Donc c'est le but principal du Kickstarter, c'est créer un hype. Mais pour moi, c'est vraiment un couteau à deux tranchants, parce que si tu crées du hype et que tu n'es pas capable de livrer la marchandise, tu vas, contrairement en fait, à ce que tu voulais faire, ça va vraiment... avoir effet un opposé. Là. Donc, tu vas créer des attentes démesurées puis tu vas décevoir tout le monde. Donc là, vraiment, tu vas te tirer dans le pied.
Levez la main si vous avez déjà été déçu par un Kickstarter.
Ben, c'est la même chose que de demander si avez-vous déjà acheté un Kickstarter, en fait.
Ça méritait ça. Ça méritait ça.
Mais non, clairement, il y a des gens qui ont acheté sûrement un ou deux Kickstarter qui n'ont jamais été déçus. Là. Il y a des Kickstarter non décevants. Ben...
Non,
je vais te prendre un exemple. Là, je ne veux pas parler contre Nicolas Fournier. Megapulse, le jeu qui, en fait, a la Megapulse Hyperdrive qui a changé de nom trois fois. En 2021, la campagne a eu lieu. Il était supposé livrer en avril 2023. Il a fait 4-5 changements de design et de... développement et tout ça en cours de route. Bon, je sais qu'il y a eu des problèmes aussi personnels, Nicolas. Maintenant, il a vendu en fait la propriété à un autre éditeur. Donc, ça ne lui appartient plus du tout. Mais ce jeu-là était supposé sortir il y a un an. Et il ne sera pas encore livré avant un autre 6 mois, d'après moi. C'est malheureusement un hype qui va vraiment se revirer contre l'auteur, contre l'éditeur. Le changement d'éditeur, donc le rachat par, je ne sais plus quelle compagnie qui a racheté.
Crunchy Lemon Games.
Non, c'est Crunchy Lemon. Ouais, c'est Tangerine Games. Je savais que c'était une affaire d'agrumes.
Un autre agrume.
C'est ça. Donc, Tangerine Games qui a racheté ça.
Se vend par un agrume. En tout cas.
Va en fait faire remonter la popularité de ce jeu-là parce que celui qui était sorti par Crunchylemon est en train vraiment de chuter. Là.
Mais tu sais, je comprends ton exemple, sauf que il y a une différence entre le hype, comme on peut l'imaginer, le gros hype de moussage de Kickstarter puis tout. Là, on parle d'un Kickstarter à 60 000$. Là. C'est un, ouais, on va le dire entre guillemets, ouais, là, un petit projet d'un gars qui a fait ça. Il y a genre 150 backers, peut-être 400 backers.
J'ai rien contre ça, Simon.
C'est un petit projet d'un gars qui voulait faire un jeu, qui a eu des bad luck, puis qui a pas réussi à le livrer comme il voulait. T'sais, c'est pas comme la méga machine à hype qui vient te faire frémir.
Ben, Awakened Realms est un excellent exemple. J'aime beaucoup ce que la flèche dit, c'est-à-dire le problème des Kickstarter, c'est que t'achètes des promesses. On en parlait en fait hors Mike, moi puis Antoine. Le gros enjeu du hype, puis ça, faut être capable de comprendre une notion. Le hype en tant que tel, c'est une notion en fait financière ou dans le domaine de la vente. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, ça n'a pas de valeur en tant que tel. L'enjeu, c'est qu'est-ce que les vendeurs ou qu'est-ce que les gens en font et par la suite, qu'est-ce qu'ils promettent avec leur
qu'est-ce
achat.
Qu'est-ce qui est hypé en fait?
Exactement, c'est ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils vont promettre? Puis l'exemple que je donnais à Antoine, c'est le meilleur, tu sais, tu vas payer Radeau, tu vas payer les gros noms de l'industrie pour dire c'est le meilleur worker placement que j'ai jamais joué. Fait que là, automatiquement, cette promesse-là, c'est OK, ben tu vas avoir entre les mains le meilleur worker placement selon Radeau. Ceci étant dit, quand on parle du meilleur worker placement ever, moi, j'ai une expérience beaucoup plus beaucoup plus approfondie que beaucoup d'autres joueurs. Et donc, quand moi, je vais approcher ça, considérant en me disant, ben, c'est le meilleur worker placement ever, ça se peut fort bien que je sois déçu parce que je me dis, ben, c'est pas vrai, parce que le meilleur worker placement ever, c'est Boss. Puis présentement, ce jeu-là que tu m'as offert, c'est pas Boss. Là, je regarde Simon qui me dit oui, mais non, c'est pas le meilleur worker placement.
Non, mais c'est pas ça l'idée. Là. On n'est pas là pour ça.
Mais tu comprends ce que je veux dire. Puis l'idée aussi, c'est aussi. Puis je vais redonner l'exemple d'Awakened Realms. Et nonobstant les différents titres qu'ils ont sortis, certains qui étaient très, très bons, d'autres qui étaient moins bons, mais c'est toujours cette espèce de promesse-là de vouloir nous lancer dans un univers qui va nous amener ailleurs, puis tout ça, et que finalement, ça tombe vraiment à plat. Je vais prendre l'exemple d'un jeu pour moi, Tainted Grail, que j'avais vraiment envie de dire « Wow, OK, j'ai envie de me plonger là-dedans », puis les 4-5 premières parties, quand j'ai reçu le jeu, j'étais super... super content. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je jouais mal le jeu puis que les règles du jeu venaient entraver à la narration et que non seulement ça, bien, la narration était vraiment, vraiment boiteuse. Ce qui est un autre enjeu selon moi dans la scénarisation puis ça, là, mais tu sais, on ne parlera pas de ça. Mais ça pour dire qu'on revenait au jeu puis est-ce que la promesse du jeu de se lancer dans l'aventure, dans le monde d'Arthur puis la chevalier de la table ronde avec Lancelot, est-ce qu'elle avait été atteinte? Vraiment pas. Et je pense que ce commentaire-là a été quand même assez... les avis sont très partagés sur Tainted Grail. Et là, on pourrait parler de plusieurs autres titres qu'Awakened Realms.
Il est quand même dans le top 100 sur BGG.
Oui, mais il y a quand même beaucoup de gens... Tu sais, je te dirais que ça, c'est un autre enjeu. Ou est-ce que souvent, les gens, quand ils sont sur Kickstarter, pour mousser les ventes, pour mousser le hype, ils vont demander aux gens de partager la campagne.
Oui, mais ils ont quand même 12 000 ratings, donc ça ne peut pas être ça, mais
ben, honnêtement,
l'autre problème, en fait, de Kickstarter, c'est quand tu payes 400$ un jeu... Tu
n'as pas le choix d'aimer ça.
Tu veux justifier que tu as fait un bon achat.
Alors les gars, je vois qu'on dévie un peu, on approche de la fin. Je sais que là, on commence à être dans le vif du sujet. Ça pourrait être un deuxième épisode.
Ouais,
vous savez, la formule 30 minutes.
C'est pas juste les Kickstarter et les publicités. Ça peut venir de tes proches aussi et de tes amis. Moi, j'ai vécu ça dans le cas d'un film, en fait, qui m'a été hypé. Tu vois, oh, c'est écœurant ce film-là, c'est écœurant. Je parle de Fight Club. J'y m'a tellement été hypé. Parce que j'ai su au bout de 10 minutes, j'avais deviné c'était quoi le punch, que j'ai trouvé le film vraiment plate. Mais bon, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut arriver dans les jeux aussi. C'est-à-dire que ce jeu-là est écœurant, ben c'est ça. Laisse-moi donc faire mon idée à la place de me le hyper et me le gâcher.
Ouais, fait que une petite conclusion peut-être, messieurs, un tour de table rapide pour le hype, le FOMO, Vincent, petit mot de la fin là-dessus.
Ouais, ben je dirais c'est ça, dans le fond, laissez le temps faire les choses et vous allez constater si un jeu est bon ou non. Un jeu qui est dans le... Puis vous, en fait, à vos amis, aux gens que vous connaissez, qui vous connaissent bien, ça, c'est super important, qui vous connaissent bien, qui connaissent bien vos goûts pour savoir si un jeu va vous plaire ou non. Donc, fiez-vous à vos amis et fiez-vous à l'indice temporel.
Pierre.
Et un jour, vous serez rendu sur Marketplace ou dans des forums encore plus obscurs à pogner des copies à 250$ de jeux discontinués depuis 20 ans qui sont vraiment pas si bons, mais qui sont ultra hipsters. Antoine, un petit mot de la fin.
Un petit mot de la fin, moi. En fait, le FOMO, ça existe juste pas. Vous serez jamais mal pris, en fait. Vous ne serez jamais mal pris, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de manquer quoi que ce soit. Si vous manquez un jeu que vous n'êtes pas capable de le trouver, vous en avoir un autre.
Ah, c'est bien dit.
Voilà.
Moi, ma technique, vous savez, j'avais une collection de 450 jeux et je l'ai dilapidé. Il m'en reste à peu près 125-130. Et ma technique, c'est quoi? C'est d'être entouré de gens qui consomment frénétiquement des jeux, qui peuvent pas s'en empêcher, qui ont toutes les nouveautés, tous les vieux jeux. Et ça, c'est magnifique, en fait. Donc, sur ce, je vous remercie, messieurs, pour cet épisode. 30 minutes, moi, j'adore ça. Je trouve que c'est une belle formule. On va pas au fond des choses, mais on s'arrête juste avant qu'on commence à débattre pendant 3 heures de Kickstarter puis d'autres affaires. Fait que, très cool. Alors, tout le monde, je vous souhaite une bonne journée, messieurs. Merci beaucoup pour votre présence et on se retrouve la semaine prochaine.
Yes.
Bon voyage.
Ciao.